Croire ce que Dieu dit par elle, c'est cela, avoir la foi. On lit directement dans l'Épître aux Romains, la foi est de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc, avoir la foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est croire ce que Dieu dit, c'est-à-dire que la Bible dit la vérité. Là, c'est important. Nous lisons dans la Bible que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'homme, les deux versets sont affichés, et par conséquent, par l'environnement qui est autour de nous, la création elle-même, Dieu parle, et nous-mêmes, nous sommes des créatures de Dieu. On va un petit peu plus loin. Et Dieu offre le bonheur présent et éternel à l'homme. Donc, nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a voulus libres. Nous sommes libres de refuser ce que Dieu propose ou d'accepter ce que Dieu propose. Voilà ce qui est proposé. « Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Qu'est la vie éternelle, le Seigneur Jésus lui-même le dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous retenons ici que Dieu est notre ressource, et ça n'est pas un Dieu, comme le disent deux de mes voisins, que les hommes ont fabriqué, mais c'est le Dieu créateur de toutes choses. Nous lisons encore que Dieu a un projet pour l'homme sauvé par la foi, c'est-à-dire pour le vrai chrétien. Et ce projet, c'est que l'homme rende témoignage devant ses semblables. Dès l'Ancien Testament, nous lisons que, regardant le peuple de Dieu fonctionner avec la parole de Dieu qui était connue à ce moment-là, eh bien, ces peuples pouvaient entendre et dire quel peuple sage et intelligent, un peuple qui ne se comporte pas comme les autres parce que Dieu lui a donné quelque chose et une responsabilité de vie qui fait que dans ce qu'il vit, les autres sont interpellés et se disent « Quel peuple sage et intelligent !» Puis encore, « Je me suis appelé Israël, être mon peuple et une louange pour ne pas. » Quelque chose qui peut ensuite, Nouveau Testament, « Allez donc et faites disciples toutes les nations. » Donc notre responsabilité à tous, chrétiens, tous les vrais chrétiens ici en particulier. Vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre, voilà pourquoi. Des chrétiens, on en trouve sur toute la terre, on trouve des chrétiens qui se déplacent, on trouve des missionnaires. C'est une responsabilité que nous aimons porter. Et ensuite, vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie, donc une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Encore, l'apôtre Paul dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas, quand nous sommes attachés au Seigneur, nous ne pouvons pas garder les journaux. Il nous faut les communiquer à d'autres. » Pour leur faire du bien. Comment montrer notre foi dans un monde qui oublie Dieu? Voilà donc le sommaire. Le sens biblique du mot monde, Étienne va prendre la parole. Puis, pourquoi et comment témoigner? Nous essaierons de trouver quelques indications. Quels exemples bibliques peuvent nous aider? Donc ce matin, nous verrons en particulier celui d'Abraham et celui de Josaphat. Quelles manifestations concrètes peuvent contribuer au témoignage chrétien individuel, familial, d'église locale, parce que nous avons une responsabilité personnelle. La vie de la famille, c'est quelque chose qui parle, un foyer chrétien, ça se voit, ça exprime quelque chose. Et enfin, une église locale qui vit de la vie de Dieu, avec ce qui est indiqué dans la parole de Dieu pour la vie d'une église locale, c'est aussi quelque chose qui parle.
Alors le sens biblique du mot « monde », on peut peut-être voir quatre sens. Un sens géographique, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde. Et il y a ce verset qu'on trouve en 1 Timothée 1, verset 15, qui dit, je vais noter quelque part, « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Donc on voit bien que là c'est le sens géographique. La terre, et par extension l'univers, hein, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé. Après, il y a un autre sens au mot monde, c'est le sens des hommes, de l'humanité. Et donc ce verset bien connu qu'on aime répéter à ceux qui ne le connaissent pas et le dire, en Jean 3 et au verset 16, vous pourrez le retrouver dans votre Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc là, le monde, il a aimé le monde, c'est-à-dire les personnes, l'humanité, les personnes qui étaient dans le monde. Après, il y a un sens un petit peu particulier qu'on trouve en 1 Corinthiens 7, verset 33, qui est le monde simplement, sans sens péjoratif comme dans le sens 4, comme on va voir. C'est ce verset où il est dit en 1 Corinthiens 7, verset 33, « Celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde, comme il plaira à sa femme. » Alors le monde là, c'est un sens général, il n'y a pas de connotation à ce mot, ça regroupe le sens géographique et le sens social, et bien sûr toutes les choses qui sont dans le monde. Et puis donc le quatrième sens, c'est un sens péjoratif, c'est le monde plus dans son organisation, dans son système, c'est un monde souvent religieux, civilisé et instruit, il est établi et soutenu par des principes de force, d'égoïsme, d'ambition, d'indépendance et de vanité. Indifférent au droit de Dieu ou en rébellion contre lui, il est dominé par des puissances sataniques sous le contrôle de Satan. Et il y a ce verset de 1 Jean 5, verset 19, qui dit par exemple que le monde entier gît dans le méchant. Le monde entier gît dans le méchant. Donc on voit bien ce sens péjoratif dans ce verset. Alors justement par rapport à ce quatrième sens, j'aimerais lire encore deux versets. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et 1 Jean 2, verset 16. Et dire que le chef de ce monde-là, dans ce sens péjoratif, c'est Satan. Il est appelé le chef de ce monde, en Jean 12, verset 31, et 14, verset 30, ou le Dieu de ce siècle, en 2 Corinthiens 4, verset 4. Alors maintenant, pourquoi nous témoignons? Pourquoi les chrétiens ont cette envie, ce besoin de témoigner? Mais il me semble que déjà, c'est parce que Jésus nous a demandé de montrer sa lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise aussi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et de faire des disciples. Donc ce verset qu'on trouve à la fin de Matthieu, allez et faites disciples toutes les nations. Donc, déjà, pourquoi on témoigne? Parce que Jésus nous l'a demandé. L'autre raison, elle est essentielle, c'est parce que nous aimons nos semblables. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se considère au-dessus de ses semblables, mais au contraire, il y a un amour pour nos semblables et nous voulons leur montrer le chemin vers Dieu. Et il y a peut-être une troisième raison, mais il y aura sans doute d'autres raisons aussi, on va le voir aujourd'hui, mais c'était juste pour un petit peu lancer le sujet, parce que notre vie avec le Seigneur en fait une nécessité. Il y a ce passage 1 Corinthiens 9, verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle, et qui dit, « Si j'évangélise, c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. » Donc vous voyez bien, par ce verset, combien pour l'apôtre Paul, c'était vraiment nécessaire qu'il évangélise, c'était indispensable. Alors comment est-ce que nous témoignons? Alors comment est-ce que nous témoignons? Eh bien, il y a deux façons de témoigner. C'est déjà de montrer que nous sommes chrétiens et aussi de parler. Il y a ce verset qu'on a en Actes 1, verset 1. Il y en aura d'autres aussi, je pense, qui seront cités aujourd'hui. Toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner. Alors on a souvent remarqué l'ordre. D'abord faire et ensuite enseigner. Notre conduite devrait précéder nos paroles. Il est plus facile de parler, mais notre conduite en tant que chrétien devrait précéder les paroles. Donc montrer, parler. On ne peut pas obliger nos contemporains à lire la Bible, mais comme l'a dit quelqu'un, ils peuvent lire notre comportement, notre façon d'agir. Peut-être une autre façon de témoigner, c'est en montrant notre différence. que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. Donc, ce côté que nous avons de nature différente, voilà, que cette chose se voit, que nous soyons sans reproche et purs, je pense là aussi, on y reviendra aujourd'hui, les chrétiens devraient montrer un côté non pas parfait, mais un côté de marcher, comme il est dit dans la Bible, soigneusement. Et donc, aussi comment on peut témoigner, en indiquant le seul chemin vers Dieu, Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas non sous le ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés. Alors, c'est le seul chemin vers Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup, mais moi, pour aller au ciel, je pense qu'il y a plusieurs chemins. Non, non, la Bible dit le seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas les chrétiens qui le disent, c'est la Bible qui le dit. Et donc c'est Dieu qui le dit. Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, et là c'est Jacques.
Nous lisons l'Ancien Testament. Nous sommes arrêtés souvent par ce que Dieu nous dit de personnages qui ont été des hommes de foi, des femmes de foi. Et nous voyons que différents traits nous parlent du Seigneur Jésus. Donc Dieu approche progressivement ou converge vers le Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament et que nous voyons les hommes qui sont attachés au Seigneur Jésus parler, hommes et femmes, êtres humains, nous découvrons que tout part de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire de Christ. Alors nous allons simplement ici, parce que ça n'est pas notre sujet, faire un petit parcours rapide pour voir comment le Seigneur s'est comporté. Quelque chose qui parle aux petits déjà, quelque chose qui parle aux enfants de 12 ans, quelque chose qui parle à ceux qui commencent à devenir responsables. Donc ici, c'est tout petit, l'enfant grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ensuite, vous pourrez avoir ces choses-là, j'en vois qui prennent des notes, ceux qui veulent ce diaporama le diront, ça part très bien par Internet, sans problème, on a travaillé tous les deux comme ceci, donc vous demanderez, je vous l'enverrai. Donc, à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus était soumis à ses parents, vous entendez les enfants, là, il y en a qui ont un peu moins de 12 ans, d'autres peut-être un peu plus, voilà, la soumission aux parents, c'est quelque chose qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui parle. C'est déjà quelque chose qui montre Dieu quelque part, le Seigneur Jésus quelque part. Jésus avançait en sagesse, en stature, en faveur auprès de Dieu et des hommes. On continue. Alors, témoin pour le profit des autres. On a exprimé tout à l'heure que nous avons besoin, parce que nous aimons les autres, de les voir connaître le salut que nous connaissons. Et partager la vie que nous avons en Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur, lui, vient de faire quelque chose, de vivre quelque chose, et il dit à ses disciples, mais allons aussi ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y enseigne aussi, que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et puis, le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc la pensée, c'est de servir, de faire du bien aux autres, de donner. Ensuite, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il y a autour de nous des pécheurs, et il y a quelque chose à dire de la part de Dieu, et le Seigneur a fait cela lui-même. Il n'est pas venu non plus pour juger le monde, on regarde ce qui se passe autour de nous, on discute, on dit tel chef d'État ne vaut rien, tel parti politique ne vaut rien, etc. Voilà, moi je lis ce que le Seigneur Jésus a fait, et j'entends, je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Donc le chrétien ne s'arrête pas sur les critiques des uns et des autres, si toutefois il comprend la politique, mais son souci, c'est de sauver ceux qui l'entourent. Et le Seigneur Jésus a donné l'exemple. Ensuite, il était séparé du mal et du malin. C'est-à-dire, Satan a des manières d'agir, un pouvoir d'action. Ceux qui ne sont pas en relation vivante avec Dieu sont des jouets dans la main de Satan. Eh bien, le Seigneur dit, le chef du monde vient, le chef du monde, c'est-à-dire le diable ou Satan ou le méchant ou le père du mensonge. Il y a beaucoup d'expressions dans la parole de Dieu pour évoquer ce qu'est le diable. Eh bien, le Seigneur Jésus dit, il n'a rien en moi. Donc notre souci, c'est qu'il n'y ait aucune emprise en nous de ce père du mensonge, du dieu de ce siècle, comme on a vu aussi tout à l'heure. Ensuite, le Seigneur Jésus avait une identité sans équivoque. On lui pose la question, toi qui es-tu? Il répond, absolument ce qu'aussi je vous dis. Est-ce que nous avons comme chrétiens une identité sans équivoque? Dites-moi, quand nous nous trouvons dans des situations un petit peu compromettantes, est-ce qu'on se cache parce que si jamais on sait qu'on est chrétien ou si ça se voit, on va nous faire des réflexions désagréables et on a un peu peur? Seigneur Jésus était direct, son identité était sans ambiguïté, il faut que notre identité chrétienne soit sans ambiguïté. Ensuite, travailler sans relâche. Voilà. Devrions être pris dans nos entrailles. Tout notre être devrait être saisi, nous avons quelque chose à vivre, quelque chose à dire, et tous les jours, quelque chose à vivre et à dire, ça, c'est la vie du chrétien. Et c'était la vie du Seigneur Jésus. Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi aussi, je travaille. À un moment donné, chacun s'en va dans sa maison, Jésus s'en va à la montagne des Oliviers, au point du jour, il vient encore au temple, il s'assoit. Il enseigne. Ensuite, livre des actes, il a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Voilà, le souci de donner est sans arrêt. Il lâche une chose, il en prend une autre pour annoncer la vérité de Dieu et le salut.
Maintenant, on va passer à d'autres témoins, et David accepté de lire pour nous les passages. Ce sera peut-être quelques extraits, parfois pas forcément l'intégralité des passages qui sont affichés.
Donc on va commencer par... Il marche ce micro ? On va commencer par lire Genèse 12, les versets 10 à 20. Ah, excuse-moi. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront et qu'ils diront « C'est sa femme », ils me tueront, et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que, grâce à toi, j'ai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée chez le Pharaon. Quant à Abraham, on le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du petit bétail et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham, il lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Du coup, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna des ordres à ses gens, et ceux-ci le reconduisirent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Donc, on va passer à Genèse 20, les versets 7 et 17. « Alors le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et le verset 17. Abraham pria Dieu. Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et celles-ci purent avoir des enfants. Et le chapitre 21, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni ma progéniture, ni ma postérité, et que tu montreras envers moi et envers le pays où tu as séjourné en immigré la même fidélité que j'ai montrée envers toi. » Abraham dit, « Je le jure. » Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les gens d'Abimélec s'étaient emparés de force. C'est jusqu'au verset 25. Et ensuite, c'est dans 2 Chroniques 18, le verset 3, puis 28 à 34. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Iras-tu avec moi à Ramoth de Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Il en sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple. Nous irons au combat avec toi. » Et les versets 28 à 34. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, partirent à l'attaque de Ramoth de Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguiserait pour aller au combat. « Toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. » Ainsi, le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi d'Aram avait donné cet ordre au chef de ses chars, « Vous n'attaquerez personne d'autre que le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat appela au secours, et le Seigneur le secourut. Dieu les entraîna loin de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur du char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël dut être maintenu debout sur son char en face des Araméens jusqu'au soir. Il mourut vers le coucher du soleil. Et les versets, le chapitre 19, les versets 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui, à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le visionnaire, sortit au devant de lui. Il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui détestent le Seigneur? À cause de cela, la colère du Seigneur est sur toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. » Tu as éliminé du pays les poteaux cultuels, les Achéras, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu.
Donc, l'exemple de Daniel, on le verra cet après-midi, parce que je ne pense pas qu'on ait le temps de voir tout le monde. Par rapport à ce thème d'être témoin, donc on va voir aujourd'hui deux thèmes. Ce premier thème, c'est vivre en témoin au travail, à l'école, avec ses voisins. Cet après-midi, on verra la suite de ce thème. Et le thème 2, ce sera évangéliser au XXIe siècle. Alors, voilà des questions pratiques qui avaient été préparées par Pierre-Henri Nau, notamment. Alors, j'en profite pour l'excuser, parce qu'il nous a écrit hier soir pour nous dire... il était un petit peu dans l'eau rouge, question de travail, vous savez qu'il revient d'Algérie, donc il a été très occupé. Il a des engagements multiples dans les jours qui viennent. Je crois que nos amis à La Rochelle nous parlerons de quelque chose le week-end prochain. Et donc, voilà, donc Pierre-Henri pense à ces questions, on a un petit peu augmenté. Comment est-ce que je peux être un témoin? En lisant sa Bible en public? En priant à table? En portant une croix autour du cou? en ayant un poisson sur sa voiture? Alors voilà, des choses très concrètes. Est-ce que ça veut dire ça, être témoin? Est-ce que ça peut vouloir dire ça? Donc peut-être on va y répondre en parlant ensemble. Autre question, faut-il respecter scrupuleusement en tant que chrétien les limitations de vitesse? Je sais qu'il y a Jean qui est devant moi qui a une idée sur la question. Comment gérer un conflit avec un non-chrétien, un voisin, un collègue? Est-ce que ça peut être une occasion de témoigner? Autre question, jusqu'à quel point devons-nous être intégrés socialement dans les festivités municipales, impliqués dans les associations, les clubs, les municipalités? Autre question, est-ce que le chrétien doit faire envie de devenir chrétien? Donc voilà, c'est pas du tout limitatif, vous avez vu, il y a etc. après, donc on peut voir d'autres choses pratiques comme ça. Ces questions sont sur un papier, je crois qu'il y en a quelques exemplaires, si vous voulez les avoir, vous pourrez les récupérer. Je pense que maintenant, d'un point de vue très concret, il faudrait que les frères qui s'expriment se rapprochent. Alors, c'est un côté un petit peu tribune, un petit peu désolé, mais avec la présentation, c'est un petit peu difficile de faire autrement aussi. Voilà, on peut quand même, si en faisant un arc de cercle au niveau des frères, de se voir quand même et être face au public. Donc, je vous invite à vous approcher pour les échanges.
Il vient ici et il s'exprime. Hein. C'est pas parce que quelques-uns sont là qu'ils ont seuls le droit de s'exprimer. On désire vraiment que l'Esprit de Dieu ait sa liberté si un frère a quelque chose à exprimer.